Mardi politique, en partenariat avec Libération et l'AFP.
Valérie Gasse.
Bonsoir, bienvenue dans Mardi politique. Nous recevons ce soir Jean-Marie Cavada, président, vice-président du Nouveau Centre et de l'UDI, député européen sortant et candidat en Île-de-France. Bonsoir Jean-Marie Cavada.
Bonsoir à vous tous, au bout du monde et à Paris.
À mes côtés pour vous interroger ce soir, Philippe Onillon de l'AFP. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Et Christophe Forcari de Libération. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Alors c'était, Jean-Marie Cavada, c'était l'événement du jour, hein, l'intervention de François Hollande ce matin sur BFM TV. Pendant une heure, un président en plein marasme qui a répondu aux questions des auditeurs. Une manière de marquer la transition alors qu'il entame la troisième année de son quinquennat en ce 6 mai 2014. Globalement, avant d'écouter un petit son de François Hollande pour nous rappeler un petit peu ce qu'il a dit... Comment vous avez trouvé cet exercice? Plutôt réussi ou pas?
Il y a la forme et le fond. Sur la forme, j'ai trouvé qu'il se battait, bien évidemment. Il avait même l'air d'avoir mangé des vitamines. Hein, il y allait. Sur le fond, bien évidemment, c'est plein de questions qui confinent à, je dirais, à un peu d'inutilité. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'à 20% on soit très bien entendu. Et je trouve qu'on est, pour dire la vérité, un peu dans l'action des communicants. Ça me rappelle l'époque où Jacques Chirac, au fond du trou, avait rameuté à peu près la même population et avec son petit carnet. Faisait le tour de France ou allait serrer des mains. C'est pas une action, c'est, je dirais, une relégitimation de sa popularité, donc on n'y est pas.
Alors je vous propose d'écouter François Hollande pour se rappeler ce qu'il a dit et le ton de son intervention.
D'abord, est-ce que j'ai dissimulé la gravité de la crise? Non, je l'avais évoqué pendant la campagne présidentielle. Est-ce que je n'ai pas suffisamment dit au lendemain d'élection que la situation que j'avais trouvée était grave? Oui, je ne l'ai pas suffisamment dit. Parce que je n'ai pas voulu simplement me défausser.
Pourquoi?
J'entends les colères. Je ne suis pas sourd. Je vois les insatisfactions. Donc, qu'est-ce que je me dis? Nous devons aller encore plus vite. Parce que pour les Français, c'est insupportable.
Alors, Jean-Marie Cavada, est-ce que c'est suffisant comme mea culpa sur le bilan, là, ce que vient de faire François Hollande?
Je n'en sais rien et je dirais qu'à la limite, c'est pas très important. Parce que la campagne électorale que François Hollande a menée était basée sur des principes qui, pour partie, étaient réels. Il n'a pas inventé la crise, hein, mais qui, pour partie, étaient faux parce qu'il a axé largement son discours sur la récupération de la gauche dont il avait besoin pour faire l'appoint. Et naturellement, ça l'amène à avoir fait des promesses dont il n'a pas aujourd'hui la politique. Et donc, il est dans porte-à-faux. Il faut dire la vérité. Le moment est venu de dire la vérité et de le dire vraiment clairement, aussi douloureuse soit-elle. De toute façon, il n'a plus grand-chose à perdre.
Et il l'a dit ce matin.
Étant donné l'état de sa popularité. Absolument. Hein. Et donc, je pense que maintenant, la question pour la France, elle est, aura-t-on un gouvernement et une majorité pour soutenir ce gouvernement apte à faire des réformes qui remettent ce pays sur les rails, je dirais, d'un certain pouvoir en France et en Europe? Ou bien au contraire, est-ce qu'on va aller comme ça dans les petites dérives qui d'ailleurs n'ont pas commencé avec François Hollande, qui date d'une presque une bonne trentaine d'années? Il faut quand même être juste.
Christophe Forcari.
Est-ce que vous avez le sentiment que ce matin, François Hollande a fait son aggiornamento social-démocrate? Et si c'était le cas, si vous en étiez convaincu, seriez-vous prêt à le suivre dans cette démarche, comme vous l'avez fait dernièrement, en vous abstenant à l'Assemblée nationale sur le pacte de stabilité?
Oui, monsieur Forcari, chacun doit rester dans son camp en raison du mandat dont il a été élu. Je dirais ce que les électeurs ont choisi en vous élisant. Hein. Pour autant, je pense que le fond de la pensée de François Hollande, elle est assez clairement social-démocrate. Le seul problème, c'est que c'est pas la pensée qui est intéressante, c'est l'action. Et dans ce contexte-là, il vient de faire un virage. Il a une majorité très étriquée pour faire appliquer ça. Il a un coupe-circuit qui s'appelle Manuel Valls. Il faut lui souhaiter qu'il réussisse un minimum. Et quant à l'attitude des centristes que vous venez de souligner, en effet, avec exactitude, on peut pas avoir dit, c'était mon cas dès 2006 avec Bayrou, que le grand problème de ce pays, c'était l'endettement, plus l'absence de ces réformes, parce que l'endettement, ça freine la croissance, et pas de croissance égale pas d'emploi. Et au moment où un gouvernement dit, nous prenons ce virage de juguler l'endettement, ça veut pas dire le supprimer, on est loin, mais au moins de le juguler, tirer à boulet rouge au nom de la politique aérie sur ce gouvernement. La situation de ce pays est beaucoup trop grave pour que on puisse jouer à ça. Et comme Hubert Védrine et comme d'autres personnes, j'appelle un jour à un rassemblement national des réformateurs, ceux qui aideront le pays à retrouver ce qui lui manque aujourd'hui, d'une certaine manière ce que l'Allemagne a fait, même si je ne suis pas partisan qu'on aille aussi loin dans le curseur de la pauvreté que l'Allemagne.
Philippe Ognon.
Alors ce grand rassemblement, ça se fait à l'occasion d'élections. Alors dans l'immédiat, on attend...
Ça se fait d'abord, monsieur, avec un programme qu'on met sur la table devant les Français. On va pas tout faire, hein. On prend deux ou trois points, qu'est-ce qui est le plus urgent dans ce pays, et puis on se met ensemble pour dire ce qui appliquera ça auront notre soutien.
Et on le propose aux électeurs, aux Français.
Bien entendu, sous une forme ou sous une autre.
En attendant, il y a un nouveau gouvernement, vous venez de souhaiter le succès de Manuel Valls. Est-ce que cette attitude disons d'abstention qu'on a vu il y a quelques jours, est-ce que vous allez avoir une attitude bienveillante, je parle des centristes, est-ce que cette attitude bienveillante à l'égard du gouvernement de l'Alsace va se poursuivre et on va voir se dessiner en attente éventuellement d'un grand accord ou d'un grand mouvement une attitude de soutien ou de patience en tout cas vis-à-vis du gouvernement.
N'extrapolons pas, il faut que ce soit sur des points fondamentaux pour l'avenir de ce pays, celui-ci en est un. Si c'était une politique de réorganisation des pouvoirs en France, nous qui sommes très décentralisateurs, la question se poserait à nouveau. Si c'est une politique de répartition de la richesse, la question, nous qui souhaitons une grande réforme fiscale depuis longtemps, voire Charles de Courson qui en parle tout le temps à l'Assemblée nationale française, dont c'est la spécialité, eh bien, il pourrait, si la proposition du gouvernement était bonne, avoir notre abstention bienveillante, comme vous dites, abstention, ou peut-être même davantage. Je vous rappelle que les centristes, il y avait trois voix qui ont soutenu Valls, qui ont voté pour. Il y en avait 17 qui se sont abstenus et quelques-uns, 3 ou 4, qui ont voté un peu plus, même une demi-douzaine qui ont voté contre.
Donc, vous dites abstention bienveillante sur des points précis. Là, François Hollande a parlé de la réforme territoriale. Ça va être le grand chantier. Quelle va être l'attitude des centristes sur ce dossier qui est pièce adjacente, en quelque sorte, le report des élections en 2016 dont François Hollande a aussi parlé.
Alors,
ce matin.
Alors, là, je vais être très sévère.
Les élections régionales.
On est quand même un pays qui, faute de pouvoir appliquer une politique qui lui redonne du souffle et des moyens, ne cesse de bricoler sa constitution d'une part et ses échéances électorales. C'est pas sérieux. Les Allemands n'ont pas touché à ça depuis des décennies et des décennies, et je vous parle même pas des États-Unis, c'est trop loin si je puis dire. Et par conséquent, le fait de reporter des élections me semble répondre à autre chose. C'est-à-dire à la peur de perdre des positions locales. Et ça, c'est nul. Franchement, c'est nul. En revanche, la réforme territoriale, si elle est sincèrement source de clarté de pouvoir, source de contrôle démocratique en région et de contrôle financier, c'est-à-dire que les auditeurs des chambres régionales des comptes, c'est ce qu'avait d'ailleurs prédit la réforme Seguin qui n'a jamais eu lieu, soient couverts dans leur indépendance quand ils investiguent. Et bref, si c'est une réforme sérieuse, source d'économie et de pouvoir contrôler, eh ben, ça mérite en effet qu'on regarde de près pour savoir si nous y sommes favorables ou non. Et par-dessus le marché, il faut maintenant faire trois choses dans la réforme des pouvoirs. La première, c'est regrouper les villes pour les gérer. C'est pas la peine de changer les noms. Deuxièmement, il faut éteindre progressivement les départements au sein de régions à nombre très limité. Pour moi, j'en vois 7-8. Peut-être 9 s'il faut. Allez, va pour 10. Certainement pas 22, même pas 15. Et une troisième chose qu'on ne dit pas dans ce pays. Une vraie réforme des pouvoirs, ça suppose que, conformément au monde moderne où nous sommes, nous ayons un vrai Parlement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Quand vous rentrez en France, venu de n'importe quel autre pays d'Europe, à l'exception de la Hongrie, de n'importe quel autre pays d'Europe, vous m'entendez, c'est le pays où le Parlement a le moins de pouvoir. Et ça ne peut pas durer.
Christophe Forcarim.
Alors, vous parliez d'exercice démocratique. On a entendu des voix s'élever ce matin à propos de cette réforme territoriale. Selon vous, faudrait-il qu'elle soit soumise à référendum, comme certains l'ont demandé au sein de l'UMP et d'autres à la gauche de la gauche ?
Pierre Laurent.
Je suis totalement d'accord avec cette idée, à condition qu'elle soit bien expliquée. Souvenez-vous de Gaulle, hein, qui, dans une assez mauvaise explication et une réforme qui n'était... J'entendais d'ailleurs ce soir un commentateur d'une radio privée dire que c'est la première fois depuis 50 ans que le président s'engage comme ça dans une... met son mandat dans la balance d'une promesse, c'est-à-dire l'inversion de la courbe du chômage. Non, De Gaulle avait mis son nom dans la balance pour le succès de la réforme de 69. Elle a échoué, il est parti le lendemain matin, à midi.
Vous dites sur la réforme territoriale, en gros, le report des élections, ça viendrait une manœuvre politicienne, mais la réforme territoriale en elle-même, elle est nécessaire.
Hautement nécessaire.
Il faut qu'elle aille vite, cette réforme, néanmoins, parce qu'au départ, on avait parlé de 2021, le président ce matin a dit qu'il faut accélérer le calendrier.
Oui, mais je peux pas, écoutez madame, ça c'est une habileté, mais je peux pas penser un instant que ces gens se sont permis de parler de réforme territoriale sur la place publique sans qu'elle ait été préalablement pensée. Organiser, je dirais, peser. Hein, et les deux axes que je viens de dire sont tout à fait clairs. Après, il faut s'inspirer là aussi d'un exemple allemand. Je suis désolé, hein, ça fait deux fois que je vous ramène l'Allemagne sur le tapis. Il y a une vingtaine d'années exactement, Baden-Baden d'un côté et puis Stuttgart de l'autre ont décidé de tirer les conséquences d'un constat. Nous sommes deux Länder trop faibles. Alors nous allons nous réunir. Et vous savez ce qu'a dit l'État allemand, le Bund, l'État fédéral? Il a dit, c'est vraiment une très bonne idée. Si vous voulez vous unir et que vous investissez un mark, c'était le mark à l'époque, chacun, eh ben un et un, ça fera pas deux, ça fera trois, parce que moi, le Bund, je mettrai aussi un mark pour faciliter la résolution des grands problèmes que vous avez. L'État français devrait penser à cette solution pour la fusion des régions entre elles.
Philippe Onillon.
Vous avez évoqué la réforme fiscale. Elle a été évoquée pendant la campagne. On a vraiment l'impression qu'il n'y aura jamais de réforme fiscale en France.
Je ne peux que souscrire à votre constat assez désabusé. Pourquoi ces gens qui sont au gouvernement, ceux-là, ceux d'avant et les prochains sans doute, parlent-ils de choses qui ne sont pas prêtes à être soumises soit à la Chambre, avec des pouvoirs rénovés, soit au peuple quand c'est des questions extrêmement difficiles qui nécessitent un appui populaire. On comprend pas, même les Suisses font des votations pour des questions, je dirais, d'aménagement rural, urbain, que je sache, la Suisse n'est pas disloquée parce qu'on consulte le peuple. Et donc, vraiment, ça suffit. Je veux dire, ce refus du peuple est tout à fait dangereux, me semble-t-il, d'autant plus que le peuple n'est pas bien relayé à l'Assemblée et au Sénat, je le répète, ce sont des chambres sans grand pouvoir, hélas.
Christophe Forcari.
Oui, dans cette réforme territoriale, on a vu pendant les municipales que les Français boudaient les urnes, même pour des élections de proximité auxquelles ils sont très attachés. Est-ce que vous ne craignez pas que finalement la création de ces super régions, la disparition des conseils généraux, ne détourne encore un peu plus les Français du chemin des urnes? Et puis la deuxième question, là encore très rapide, est-ce que les Français ont posé des questions sur le chômage, sur des choses très concrètes, la demi-part de reversion, la demi-part des pensions de reversion. Est-ce que c'est le rôle d'un président de la République de se muer en super assistante sociale?
Je suis obligé d'abord de dire que la première question, je n'en ai aucune idée, si la réforme des régions va éloigner les électeurs ou au contraire, dès l'instant qu'ils auraient le sentiment qu'ils peuvent contrôler est le mot, à la délibération des régions, notamment dans des exécutifs régionaux, ça pourrait les rapprocher. Je ne sache pas que les pays fédéraux ont une désertion des urnes plus forte que nous, donc je serais prêt à prendre le pari, mais j'en sais rien, hein, donc je ne vais pas faire le fanfaron. Sur la deuxième question, que j'ai oubliée d'ailleurs.
Hein. Oui, est-ce que le président ne s'est pas mué ce matin en super assistante sociale sur des problèmes qui sont à la limite trop concrets pour être de son ressort?
Vous touchez vraiment une des maladies du système constitutionnel français qui donne de grands pouvoirs au président pour avoir de grandes stratégies, mais qui, en réalité, au motif, et ça c'est encore un truc de com, qu'il faut se rapprocher de la population, alors qu'en réalité on s'en éloigne, parce qu'on n'assume pas le destin, on assume les petits problèmes de serrure et du tout venant, on en prend au gouvernement. Je pense qu'on est dans une interprétation de la Constitution qui est aujourd'hui bien plus médiocre, mauvaise, je veux dire, restrictive, que celle de Gaulle et de Pompidou, eux-mêmes qui pourtant n'avaient pas donné à la Chambre des représentants de l'Assemblée nationale énormément de pouvoir. Et la pratique, la lecture de la Constitution est une chose, sa pratique est détestable. C'est au gouvernement de dire ça, c'est pas au président.
Mais le lien, il est rompu avec le président. C'est lui qui a 18% dans les sondages. C'est inédit. Est-ce que François Hollande avait le choix? Il faut bien qu'il renoue d'une manière ou d'une autre. On voit bien qu'il a engagé ce matin, depuis quelques jours, une opération reconquête des cœurs. Il est allé ensuite à Didier Lebel parler aux jeunes. Oui. Il faut qu'il se recrédibilise.
Vous
voulez
mon avis? Vous voulez mon avis? La présidence de la République, c'est pas le bowling du coin auquel on vient parler à 21h avec des gamins qui jouent au bowling. Non, c'est pas ça du tout. Ce qu'on attend d'un président, c'est qu'il occupe sa place à l'étranger. Et en ce moment, il y a de quoi faire avec l'Ukraine et l'Europe. Et deuxièmement, qu'il trace le destin de la France régulièrement en s'exprimant clairement. Mais c'est pas de se répandre tous les matins sur les médias. Il va s'user comme s'est usé Sarkozy. Je pense que dans l'idée qu'on se fait des gouvernants, il y a l'idée de la rareté. Quand tu parles, c'est très important, alors je t'écoute. Si tu bavardes tous les soirs, à la fin, personne n'écoute plus rien. Ceci est une musique un petit peu techno, à la fin.
Il bavarde pas tous les soirs, là. Il a choisi une manière
je
de s'exprimer.
Je trace la voie dangereuse, bien entendu. J'exprime la voie dangereuse. D'ailleurs, le penchant de François Hollande n'est pas de bavarder beaucoup à la télévision. Mais quand il vient, si c'est pour parler de choses usuelles
c'est
qui relèvent d'un ministère ou d'un secrétaire d'État, non, c'est pas son rôle. Franchement, il faut de la hauteur. Ça, c'est parce que les conseillers de l'Élysée sont affolés. Je reconnais là la marque des pouvoirs intermédiaires.
Ils ont de quoi être affolés à 18%.
C'est leur affaire.
Philippe Oignon.
Alors, l'un des sujets sur lesquels François Hollande a pu décevoir une partie de son électorat, c'était sur cette présidence normale, cette présidence un peu apaisée, qui ne fait pas des coups de com, par exemple, et qui n'a pas d'affaires, qui n'a pas de problème avec l'argent. Enfin bon, est-ce que cette situation, que l'on peut tous déplorer, n'est pas une opportunité historique pour les centristes, pour le centre, d'apporter une nouvelle voie, cette voie de peut-être un peu plus scandinave, un peu plus nordique? Est-ce qu'il y a un espace, est-ce que ça peut créer un espace pour vous, pour un autre discours, peut-être un changement d'institution, mais en tout cas, peut-être via le référendum qui semble vous intéresser beaucoup. Est-ce qu'il y a un espace, est-ce que vous y réfléchissez, est-ce qu'il y a une identité qui pourrait se créer autour de ce manque?
Alors, nous travaillons dans plusieurs directions. L'Europe, mais bon, c'est l'opportunité des élections et c'est pas difficile pour nous vu que nous analysons beaucoup des problèmes français à travers le prisme européen. Donc, je le mets de côté parce qu'il va de soi celui-là. Nous travaillons beaucoup aussi sur ce qui est, je dirais, la répartition de la richesse. Ça comprend à la fois la réforme fiscale dont j'ai parlé, mais aussi les principes de répartition à usage collectif, c'est-à-dire où, quelle proportion de l'argent de l'État va où, collectivité ou pas, etc. Et puis à répartition, à usage individuel, c'est-à-dire la politique sociale, hein, qui est vraiment l'apanage d'un gouvernement. Où on met le curseur de l'aide, de l'assistance, des pensions, des retraites, qu'est-ce qu'on fait, qui paye les cotisations sociales? C'est-à-dire, au fond, sortir d'une vétusté jacobine. Car je veux dire une chose en profitant de votre question, monsieur. C'est qu'on voit bien que la France s'est portée très bien du régime jacobin et même un peu suradministré. Du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le pays était en ruine, c'était un pays d'agriculteurs avec des petits lopins de terre, hein, jusqu'au à peu près au milieu des années 60, je dirais 65-67. 68 a montré que le pays, et en tout cas ceux qui pensaient ça, hein, ceux qui conduisaient cette réflexion, le pays avait le sentiment d'avoir récupéré, recouvré, si je puis dire, retrouvé une prospérité, et maintenant il voulait participer plus directement à la modernisation de ses liens. Avec la famille, ça a marché, après 68. Avec l'entreprise, ça a marché un peu. Et avec le pouvoir, ça n'a pas marché du tout. Le pays est resté profondément jacobin. Est arrivée là-dessus la révolution numérique, qui, elle, donne à tout le monde l'accès à tout et tout le temps, sauf au bulletin de vote, qu'il est loin, le bulletin de vote. Il est très loin.
Jean-Marie Cavada, on va arriver à la fin de la première partie. Est-ce qu'il y a un espace politique pour le centre, là, actuellement?
Oui. Alors, c'est sur ces trois sujets que nous devons, en effet, confectionner cet espace politique. La réponse, oui, et à une condition aussi, que le pays se soucie un tout petit peu mieux de ce qu'on pourrait appeler, dans le vote, une réforme pour améliorer la représentation des différents courants, parce qu'actuellement, il est manichéen, le vote. Donc, il fait un peu de proportionnel. Pas trop, mais un peu.
Est-ce que, juste avant la fin de cette première partie, est-ce que Manuel Valls, Premier ministre, est un Premier ministre sans trop compatible? Est-ce qu'il est compatible avec le centre?
Écoutez, je vous dis, chacun est dans son camp. Hein. Nous ne sommes pas dans la majorité, mais est-ce qu'il est compatible avec les besoins du destin de la France? Réponse oui, et quand ça reviendra sur le tapis, nous soutiendrons en effet quelque chose qui aide à sauver le pays.
Eh bien écoutez, on va se quitter sur ces mots, c'est la fin de la première partie de Mardi Politique. Nous retrouvons notre invité Jean-Marie Cavada, vice-président de l'UDI et du Nouveau Centre et candidat aux européennes dans quelques minutes.